France Culture vous donne le goût du savoir. Tout de suite, les sciences. Aujourd'hui, Continent Science par Stéphane Delisgeorges.
En ouverture de toutes ces rendez-vous scientifiques sur France Culture à 14h, toujours bien sûr en direct du studio 1061 de la Maison Ronde de la Maison de la Radio. Aujourd'hui, Continent Science, bonjour à toutes et bonjour à tous. À notre menu aujourd'hui, eh bien, pas moins que le Big Bang. Ce modèle dit standard et certaines critiques, objections, questions que l'on peut lui poser à ce modèle cosmologique. Et aujourd'hui, pour faire la chose, eh bien, nous sommes avec Thomas Lepelletier, il est philosophe, et avec Jean-Marc Bonnet-Bideau, qui lui est astrophysicien. Et puis ensuite, bien sûr, ouverture de l'espace critique, aujourd'hui avec Raphaël Briot, et toujours dans la non-connaissance de ce qui va faire son propos. Mais pour respecter notre habitude, tout de suite et tout de suite encore, la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, aujourd'hui je retiens la sterne arctique, alias Sterna paradisa. Elle pèse 125 grammes en moyenne et elle parcourt plus de 70 000 km par an. La migration record des sternes arctiques du Groenland à l'Antarctique justement a été suivie à la trace par des chercheurs grâce à de petits appareils de géolocalisation placés sur la patte de 11 oiseaux. Les enregistreurs de position utilisés avaient été mis au point à l'origine par des chercheurs du British Antarctic pour étudier les migrations de l'albatros. Les données recueillies grâce à cet appareil de géotracking miniature ont permis non seulement de confirmer l'aire d'hivernage de cette sterne, mais aussi de déterminer la distance qu'elle parcourt et bien sûr les itinéraires qu'elle emprunte. Voici le tracé de leur voyage, depuis leur territoire de reproduction en Islande ou au Groenland, jusqu'à leur site d'hivernage près de la péninsule antarctique. Elles quittent donc le Groenland ou l'Islande en août ou en septembre. Elles font ensuite une halte près de Terre-Neuve pendant quelques jours. Les sternes descendent ensuite vers les îles du Cap-Vert et là, le groupe se scinde en deux. Une partie poursuit sa route le long de la côte africaine, l'autre traverse l'Atlantique jusqu'au Brésil et longe l'Amérique du Sud. Après avoir passé les mois d'été austral de décembre à mars près de l'Antarctique, notamment en mer de Weddell, la sterne arctique remonte maintenant vers le nord. Sa trajectoire forme à nouveau une sorte de S au-dessus de l'océan Atlantique, partant d'abord vers l'Afrique, puis obliquant vers l'Amérique à la hauteur du Brésil, remontant les côtes africaines jusqu'aux régions boréales. Ces oiseaux ont donc ainsi parcouru, je le répète, près de 70 000 km. Pour certains, les compteurs ont même enregistré jusqu'à 80 000 km de voyage. Ainsi, la sterne, au cours des 30 années de sa vie, parcourt plus de 2,4 millions de kilomètres. De quoi pouvoir faire très exactement, allez, 3 allers et retours vers la Lune. C'est deux fois ce que laissaient présager les précédentes études. La sterne arctique bat donc de 4000 kilomètres le précédent détenteur du record de l'émigration, le magnifique, lui aussi, Puffin fuligineux, alias Puffinus griseus, autre admirable voilier. Bonjour Thomas Lepelletier.
Bonjour.
Bonjour Jean-Marc Bonnevideau.
Bonjour.
Alors voilà que sous ce titre avec un point d'interrogation, un autre cosmos, vous, allez, je vais dire, agacé, chatouillé, provoqué, questionné, ce qui d'emblée apparaît, surtout d'ailleurs pour nous les popularisateurs, vulgarisateurs de science, comme quelque chose de parfaitement établi, sans question, le modèle standard du Big Bang, avec ses... allez, grosso modo, je fais le chiffre rond, 14 milliards d'années, c'est bien ça, hein, pour cette histoire de l'objet unique. Alors, peut-être une première, d'ailleurs, première considération, on y reviendra, mais elle est pratiquement d'ordre de sociologie des sciences, puisque dès l'abord, et je fais la citation, et après, évidemment, je vous laisse parler, dans vos remerciements, vous avez une malice qui donne bien le ton, et de votre initiative et aussi de la réception de ce questionnement. Vous dites enfin, nous remercions tous les astrophysiciens et cosmologistes que nous avons sollicités pour participer à cet ouvrage et qui ont exprimé quoi ? Leur mépris, voire leur hostilité envers cette tentative de penser autrement le cosmos, en nous montrant à quel point ils étaient fermés à l'idée de questionner le bien fondé de leur modèle de prédilection. Ils ont parfaitement démontré l'intérêt qu'ils pouvaient y avoir à réaliser un ouvrage de réflexion critique sur la cosmologie moderne. Signé Thomas Lepelletier et Jean-Marc Bonnevideau pour ce qui est des remerciements. Le temps est donné.
Tout à fait. Hein ? Mais ça a été une surprise pour nous de découvrir cette hostilité. Naïvement, quand on a lancé ce projet... on pensait qu'il allait être bien reçu, au sens que le questionnement nous paraissait une part légitime de la réflexion, que ce soit philosophique ou scientifique. Et on avait bien inscrit ce projet comme un projet, je dirais, de philosophie des sciences appliquées. C'était ça qu'on voulait faire. On ne se mettait pas dans la démarche scientifique classique. On voulait prendre du recul et donc on invitait des astrophysiciens et des cosmologistes à prendre du recul avec nous, sans savoir bien sûr où ça allait nous amener. Et je ne dis pas que les réponses ont toujours été négatives. On a réussi à former une équipe autour de nous, mais il y a eu des réponses qui nous ont surpris. Bon, mais il fallait le mentionner. Elles étaient représentatives ou symptomatiques d'un état d'esprit d'une partie de la communauté.
Sur ce point, un petit point, Jean-Marc Bonnevideau.
Oui, ben écoutez, c'est vrai que je pense qu'il faut rappeler d'où est parti notre projet, hein, et qui concerne la communauté scientifique, effectivement. Il est parti de deux choses. Une première chose, c'est que vers les années 1995, on a commencé à parler de la cosmologie de précision.
Oui.
Alors ça m'a alerté. Alors, je voudrais dire d'abord que je ne suis pas un cosmologiste. Et comme Thomas me le faisait remarquer, nous deux, nous sommes extérieurs à la communauté, ce qui nous permet d'avoir un regard extérieur, disons, moins impliqué. Et sans doute, nous donne un point de vue privilégié. Et donc, quand on a commencé à parler de cosmologie de précision, moi, en tant que scientifique, vraiment spectateur assidu de ma propre discipline, je me dis, mais il y a quelque chose qui semble contradictoire, parce que dans le même temps, on nous apprenait qu'on ignorait 95% de notre univers dans la nature, dans le comportement, dans la distribution. Et là, il y avait comme un hiatus, voilà. Quelque chose qui m'a semblé être du domaine, justement, philosophie des sciences, sociologie des sciences, bien au-delà de l'enjeu scientifique. Et donc, je me suis dit, tout le monde a la même réflexion que moi, donc on va s'adresser aux scientifiques que nous connaissons le mieux pour leur demander de développer là-dessus et d'expliquer comment, effectivement, ces deux choses peuvent être éventuellement ou bien discutées ou bien mise en cause. Et c'est là qu'on a eu cette surprise, effectivement, que le jeu n'a pas été accepté par tous les scientifiques.
Oui. Alors, bon, évidemment, on va voir dans plus de détails ce que cela veut dire que de regarder les points critiques, en particulier de jeter un coup d'œil sur ce qu'on peut appeler les modèles alternatifs, puisqu'il en existe. Alors, peut-être deux considérations générales. Encore une fois, me plaçant, moi, du point de vue du vulgarisateur ordinaire, soit dans la presse écrite, soit à ce même micro. Évidemment, le Big Bang semble quelque chose. C'est difficile, le projet d'une cosmologie, puisque c'est l'unique science qui soit une science du tout. Et en plus, c'est difficile ensuite d'un autre point de vue, puisque ayant point de départ dans cette théorie standard du Big Bang, un temps zéro, un temps initial, il s'agit d'un objet qui n'est pas de façon simple théorique, puisqu'il est historique aussi, puisqu'il y a un certain nombre d'épisodes. Et puis, dernière considération, elle s'appuie sur deux des points forts de cette théorie du Big Bang. Le premier, qui apparaît comme une des preuves, alors on le verra après dans le détail, forte, très puissante, c'est évidemment le rayonnement à 3 degrés K, ce rayonnement fossile, témoin à grosso modo 380 000 ans après donc cette date du début de l'univers, ce découplage entre matière et lumière qui a permis ce rayonnement-là, ce rayonnement fossile à 3 degrés K, et puis aussi cette constatation qui semble être puissamment avérée de l'expansion de l'univers, remarquée dès les années 30, si je ne m'abuse, par Hubble. Donc voilà pourquoi on s'appuie sur le confort, en tout cas le sentiment du confort d'une théorie bien établie. Là encore, je repose la question, pourquoi cette réaction de prime abord de ces scientifiques, parce qu'ils sont mobilisés à vouloir continuer à apporter, et c'est l'ordinaire de leur travail, des preuves à ce modèle qui, après tout, tient la route, bien évidemment. Est-ce que c'est tout simplement une sorte de conformisme caché, de ralentissement de l'esprit critique? Qu'est-ce qu'on peut dire?
Oui, je pense que c'est complexe, évidemment. On ne peut pas le réduire à un ou deux arguments. Le premier est important, c'est l'espace économique dans lequel se déroule la recherche à l'heure actuelle. Des très, très gros projets. Vous faites référence au fond diffus cosmologique, enfin, censé être tel. Il est étudié à l'heure actuelle par un grand satellite européen qui s'appelle Planck, qui a mis 15 ans pour se développer avec des milliards d'euros à la clé. Donc, en fait, ça veut dire qu'on est comme contraint d'avoir le résultat prévu, parce que les projets sont établis en disant on fait cette expérience pour trouver ça. C'est déjà un petit peu un biais dans la méthode scientifique, puisque effectivement, normalement, on n'est pas toujours sûr de ce qu'on va trouver, donc ça devrait être plus allégé. Il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect d'un consensus. Bon, je pense personnellement que la recherche n'est pas à l'extérieur du monde courant. La culture du consensus, c'est bien notre culture de notre société actuelle. Et là, en fait, à mon avis, en science, il marche négativement la recherche scientifique, c'est-à-dire effectivement une très grande frilosité à proposer de nouvelles idées, parce que effectivement, pour le moins, on perturbe effectivement l'équilibre des connaissances, le mieux ça paraît dans un premier temps. Moi, j'insiste là-dessus parce que je le vis, moi, à mon corps défendant, c'est-à-dire je pense que moi, je suis toujours curieux d'appliquer la méthode scientifique du doute. Enfin, c'est vraiment la culture du doute, comme disait le grand physicien Richard Feynman, en faisant la séparation avec la religion qu'est la culture de la foi. La science et la culture du doute.
Bien sûr.
Et donc, c'est vraiment l'outil principal. Alors, le fait est que notre société ne pousse pas à ça. À l'heure actuelle, on est dans une espèce de recroquevillement. Et les sources économiques, et puis ensuite, après, en fait, c'est une question aussi plus pragmatique de carrière. Un scientifique qui a défendu pendant 15 ou 20 ans une idée a beaucoup de mal à la critiquer lui-même. Enfin, voilà, c'est assez général, mais je pense qu'on a les éléments là qui donnent un peu la réticence à envisager de nouvelles idées, souvent en science.
Alors, ultime considération avant de commencer, bien évidemment, il ne s'agit bien sûr pas de suivre d'une quelconque manière un certain nombre d'élucubrations menées, par exemple, au hasard, Balthazar, par quelques animateurs un peu gonflés du PAF, descendant ou remontant, que sais-je, après le temps de Planck, à 10 puissance moins 44 secondes, après le temps zéro, enfin bref. Donc voilà, nous sommes dans le sérieux, dans le dur. À preuve, c'est que nous allons commencer par de la hard, si je puis dire, épistémologie, avec vous, Thomas Le Pelletier. Il y a donc vous mobilisez très vite quelque chose qui est une sorte de paradigme puissant en philosophie des sciences, qui est la sous-détermination des théories. Alors on va voir ce que c'est, qu'est-ce à dire, ce que cette sous-détermination des théories. Qu'est-ce qui vous a amené assez rapidement à voir que, on va la définir, qu'elle était bien adaptée à l'analyse critique du modèle standard?
J'irais...
Le point fort, d'abord.
Le point fort,
après, on verra
c'est
le
que la thématique de la sous-détermination en soi est, je dirais, fascinante. Pour le dire en deux mots, c'est quoi la sous-détermination des théories par rapport aux observations, derrière cette expression qui fait un peu jargonnante? C'est l'idée tout simple que face à un certain nombre de phénomènes, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir deux théories équivalentes, capables d'expliquer ces phénomènes? Alors ça pose un problème parce que du rapport entre les théories et les phénomènes. Quand on a une théorie qui explique très bien un phénomène, une première tendance consiste à dire que cette théorie correspond à la réalité, elle est un reflet, elle a un lien intrinsèque avec la réalité. Mais s'il existe une autre théorie empiriquement équivalente qui explique donc aussi bien ces phénomènes, à ce moment-là, et les deux théories, si les deux théories sont incompatibles l'une avec l'autre, à ce moment-là, on ne peut plus dire que la théorie reflète la réalité ou correspond à la réalité. Donc on a un problème général là de philosophie des sciences qui travaille tous les philosophes des sciences. Et je me suis dit, ce problème, il est fascinant, mais au lieu de l'aborder de façon très générale, de façon très abstraite, je me suis dit, il serait bien de l'appliquer à un cas concret. Parce qu'on peut effectivement méditer pour savoir s'il y a toujours ou non sous-détermination des théories par rapport aux observations. Mais je me suis dit, non, je ne vais pas faire une réflexion générale, je vais prendre un cas très concret qui est la cosmologie. Pourquoi ? Parce que j'avais un peu travaillé sur l'histoire de la cosmologie, sur la philosophie de la cosmologie. Et je me suis dit, naturellement, là, il y a un terrain d'études. Et donc, c'est pour ça que c'est un travail de philosophie des sciences appliquées.
Suite donc de ce rendez-vous autour de cette question, un autre cosmos, où sont discutées donc les critiques possibles apportées au modèle du standard du Big Bang, toujours pour ce rendez-vous de Continent Science, et en compagnie de Thomas Pelletier et Jean-Marc Bonnet-Bidot. Pour avancer encore dans la compréhension, on va souvent répétant d'ordinaire que l'attraction universelle de Newton fonctionne très bien, que en tout cas elle a eu des succès absolument considérables. Et puis que ensuite, bien sûr, est arrivée cette coupure très importante avec la relativité restreinte d'Einstein, où là cette fois sont en tout cas par exemple considérées des questions de vitesse. Et certains vont, encore une fois, répétant, disant, à une certaine approximation et compte tenu d'un certain ordre de grandeur, la théorie newtonienne est bonne. Et puis voilà qu'avec l'avènement de la relativité générale et ses considérations donc de vitesse, eh bien là, l'attraction universelle de Newton devient un cas particulier d'une théorie plus générale, mais parfaitement consistante avec la précédente. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord l'un et l'autre avec cette conception.
Non, il y a quand même... C'est vrai que la théorie de Newton, dans plein de situations, peut être vue comme une approximation de la relativité générale. Mais il y a des cas flagrants où il y a une erreur, d'ailleurs. C'est le cas, par exemple, de l'écart de l'anomalie de la trajectoire de Mercure, qu'on appelle le périhélie de Mercure, où là, les calculs newtoniens ne correspondent pas aux calculs d'Einstein. Et les calculs qui s'avèrent justes sont ceux d'Einstein. Donc là, on peut dire que souvent... la théorie de Newton apparaît comme une approximation, mais il y a des cas très précis où il y a une théorie qui est plus correcte que l'autre et une théorie qui donne des mauvais résultats. Donc c'est pour ça que j'ai osé dire dans l'introduction que la théorie de Newton est manifestement fausse, mais elle reste quand même très utile à expliquer beaucoup de phénomènes. Donc une théorie qui est très utile pour expliquer beaucoup de phénomènes, dont on peut encore utiliser pour faire beaucoup de prédictions, peut en même temps s'avérer fausse.
D'ailleurs, la conserver aussi pour des raisons didactiques ou de pédagogie. Votre sentiment là-dessus, sur ce point,
parce que, Jean-Marc Bonnet-Bidot. De façon amusante, en fait, ça peut servir aussi cette histoire de l'anomalie de Mercure, qui était un tout petit détail, finalement, et qu'on a cherché à résoudre, par exemple, au premier abord, par l'ajout d'une nouvelle planète que personne n'avait vue. C'est un nouveau concept qu'on a sorti. C'est notamment Le Verrier qui a... Alors, on s'aperçoit qu'effectivement, la première réaction d'un physicien, on rajoute quelque chose pour que ça marche. En fait, il fallait revoir les hypothèses de base très profondes, celles même de la gravitation, pour pouvoir réexpliquer. Alors, il nous a semblé que dans le modèle du Big Bang actuel, c'était un petit peu sur ce mauvais chemin sur lequel on s'avançait. C'est-à-dire qu'on a rajouté des tas d'éléments inconnus, que nous appelons matière noire ou énergie noire, juste pour que ça colle. Alors, notre réaction a été de dire, dans ce livre-là, nous sommes livrés à l'exercice avec des gens qui sont des scientifiques qui ont accepté cet exercice, de reprendre, au contraire, les hypothèses de base du Big Bang et de les décortiquer pour savoir si elles marchaient ou non. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de possibilités d'autres variantes de cosmologie que celle du Big Bang. Et cette histoire de Mercure est bien là pour nous montrer que parfois, c'est la première réaction qui est la mauvaise. C'est-à-dire devoir rajouter des éléments inconnus que peut-être on ne trouvera jamais. La question de la matière noire est totalement ouverte. On la cherche depuis 30 ans.
Et on l'a pas trouvée. Ouais. On y reviendra d'ailleurs.
Voilà. Oui. Et donc voilà, si vous voulez, c'est amusant parce que cette histoire de Mercure sert finalement de pivot à l'esprit du livre.
Alors évidemment, ce que j'ai oublié de dire tout au début, c'est que vous êtes en tout cas ce qu'on appelle les directeurs, et vous êtes les contributeurs bien sûr de cet ouvrage, qu'il y a aussi de nombreux autres auteurs. Alors ceux qui me viennent, je n'ai pas la liste en tête, je ne vais pas feuilleter le livre, mais en tout cas il y a Stéphane Fay, et puis aussi un très grand cosmologiste d'origine, enfin qui est indien, et qui est Narlikar, et qui est contributeur là encore, et qui est contributeur aussi dans le débat cosmologique pour des modèles alternatifs concernant donc cette science du tout, encore une fois, la
bien
cosmologie.
Bien sûr, puisque Jayant Narlikar, effectivement, a été un des collaborateurs de l'astrophysicien anglais Fred Hoyle, qui a été un des tenants de l'alternative au Big Bang dans les années 50 jusqu'à dans les années 70. Et donc, il contribue là, justement, par exemple, à un exercice très, très amusant de se dire, mais l'expansion, on dit l'univers est en expansion. Mais comme le fait remarquer Thomas Lepelletier, je crois, dans son texte, nul n'a jamais observé l'expansion. On n'observe pas l'expansion. On observe le décalage vers le rouge de la lumière. C'est totalement différent. Oui. Et donc, lui s'amuse, c'est une théorie qu'il a effectivement élaborée, hein, à imaginer que ce décalage vers le rouge viendrait d'une inertie croissante de la matière. Enfin, et ça marche. Alors, voyez, je veux dire, le champ de possible qui s'instaure dès que vous abandonnez une espèce de petit socle dogmatique, et on a répété ça pour un certain nombre, pour six cas particuliers, six angles particuliers du modèle du Big Bang, et c'est très intéressant de lire ça, juste par les idées que ça fait ressortir. Oui.
Et d'ailleurs, vous l'avez accompli, on va le voir, dans votre participation propre, Jean-Marc Bonnet-Bidot, sur, justement, ça m'a frappé à chaque fois, il y a des considérations observationnelles, et aussi, évidemment, immédiatement après, l'interprétation que l'on peut en donner. Enfin, retour quand même avec vous, on va essayer d'avancer encore pour mieux décrire cette question et cette définition de la sous-détermination des théories, Thomas Lepelletier. Alors, en général, on n'est pas évidemment en science dans l'observation pure, comme des benêts innocents. On jette un filet théorique sur la nature. Et puis, bien sûr, on jette aussi à un moment une hypothèse. Et c'est bien ce travail permanent qu'on a appelé le schéma hypothético-déductif qui fonctionne. Alors, on s'aperçoit que quand on jette une hypothèse, et qu'on a un résultat, qu'il n'est pas pleinement satisfait, là, vous d'ailleurs, vous abordiez de façon indirecte cette question, eh bien, on peut se payer le luxe d'une petite hypothèse ad hoc, et tout rentre dans l'ordre, par exemple. Ça, c'est une manière, là aussi, on est dans les linéaments, si je puis dire, de la sous-détermination des théories.
Tout à fait. La question, mais je dirais, c'est une démarche naturelle. C'est pas une erreur de rajouter quelque chose à la théorie. Quand Urbain Le Verrier a fait l'hypothèse de Vulcain que Jean-Marc racontait, il s'est trompé. Quand il avait fait l'hypothèse, au contraire, de Neptune en 1846, donc quelques années avant, il avait trouvé juste. Donc, rajouter un élément à une théorie, parce que pour qu'elle tienne debout, pour ne pas remettre en cause, par exemple, la théorie de Newton, quand Le Verrier l'a fait en 1846, ça a très bien marché. Donc, on aurait pu dire dans un premier temps, c'était une hypothèse ad hoc, il rajoutait quelque chose. Mais comme on a finalement réussi à observer la planète Neptune, il est apparu que cette hypothèse ad hoc n'était plus ad hoc. Donc, quelque part, le statut d'une hypothèse ad hoc peut changer à travers le temps. Donc, on est toujours dans une réflexion au cas par cas. Il est naturel, et pour la matière noire, c'est pareil. C'est une hypothèse qui n'est pas du tout absurde de supposer qu'il y a de la matière noire pour plusieurs raisons. La question qui se pose, c'est que, effectivement, quand on ne trouve pas, à force de ne pas observer Vulcain, il a fallu changer de théorie de la gravitation. Et pour la matière noire, la question n'est pas de dire que c'est une mauvaise hypothèse, c'est une hypothèse tout à fait légitime, mais il faut se poser la question, à partir de quand il va falloir réfléchir à d'autres options. Et c'est ça qui reste ouvert. Donc le statut des hypothèses ad hoc, qui a un statut tout à fait, qui a sa place dans les théories, c'est un statut qui est amené à évoluer en fonction du développement des théories. Si, mais là où ça pose problème, c'est quand on rajoute un petit peu trop, je dirais, de théories ad hoc, plus on rajoute d'hypothèses ad hoc, plus on devrait être en droit de se demander s'il n'y a pas un problème avec la théorie. Et donc, là, par rapport au modèle du Big Bang standard, c'est la question qui se pose. Ces hypothèses sont peut-être légitimes, puisqu'on va peut-être découvrir effectivement de la matière noire, on va peut-être expliquer l'énergie noire, on va peut-être expliquer un certain nombre de choses, des éléments dont on parle aussi dans ce livre, c'est de l'inflation. Mais à force de rajouter des choses, on devrait en même temps, et c'est un petit peu l'idée du livre, en parallèle à ces hypothèses, essayer de voir s'il n'y a pas d'autres options. pour voir si finalement ces hypothèses ad hoc ne sont que des hypothèses ad hoc qui finalement sont destinées à être éliminées, ou au contraire, si elles sont propices, elles sont enrichissantes pour comprendre l'univers.
Alors mobilisons un instant un auteur qui est français d'ailleurs, qui était physicien et qui aussi a donné beaucoup et pour la philosophie des sciences et aussi pour l'histoire des sciences. On sait évidemment chez Hermann la suite épaisse et lourde de son histoire donc de l'astronomie, il s'agit de Pierre Duhaime, et que vous mobilisez. Pour lui donc les théories physiques forment comme une sorte de corps conventionnel, et vous dites qu'il est les théories sont holistes, oui. C'est-à-dire que elles forment comme des touts. Elles ont un certain nombre de principes qui sont corrélés entre eux et elles forment comme un tout. Et à ce moment-là, évidemment, quand on jette l'hypothèse, ainsi de suite, il y a des chances pour que ça bouge dans l'ensemble, si je puis dire.
Alors, c'est en rapport avec cette idée de réfutation. En science, on parle toujours de la réfutation et on va dire on a réfuté telle théorie ou telle autre théorie. Pierre Duhaime, donc au début du XXe siècle et à la fin du XIXe, vient montrer que les choses sont un peu plus compliquées en mentionnant ce caractère holiste des théories. C'est qui va dire que quand on teste par des observations une théorie, on ne teste jamais une hypothèse isolée au sein de cette théorie. On teste forcément la théorie comme un tout. S'il y a un conflit entre les observations et la théorie, on sait qu'il y a un problème. Mais on ne sait pas forcément quelle hypothèse pose problème. Alors, on peut de temps en temps imaginer que c'était l'hypothèse qu'on voulait tester, mais il se pourrait très bien que ce qui est en conflit avec les observations, ce qui est la cause du conflit, ce n'est pas l'hypothèse qu'on voulait tester, mais c'est une autre hypothèse. Donc on a un problème d'indétermination, de connaître la source du problème, et par la complexité forcément des théories. Et dans le cadre de la cosmologie, c'est beaucoup plus, encore plus criant, puisque la cosmologie, ce sont des modèles, on parle de modèles cosmologiques, c'est donc un ensemble de théories qui réunissent beaucoup d'observations. Donc quand on a un conflit entre des observations et un modèle cosmologique, il est difficile de savoir directement quelle est l'hypothèse du modèle cosmologique qui pose problème. Et
oui.
Est-ce que c'est une hypothèse secondaire qui n'a pas beaucoup d'importance, qu'on peut modifier rapidement, ou est-ce que c'est une hypothèse fondamentale qui est au cœur du modèle cosmologique? Donc il y a toujours, ce qu'est venu faire Pierre Duhaime, c'est de montrer la complexité de cette notion de réfutation dont on parle toujours en science, et qu'il faut toujours donc la manier avec précaution. Et donc, nous, quand on est revenu dans ce livre un petit peu sur l'histoire de la cosmologie, effectivement, dans la cosmologie, on dit souvent que des modèles cosmologiques ont été réfutés. Mais alors, si on s'inspire un peu de Duhaime, on va se dire, oui, peut-être qu'il y a eu un conflit entre telle observation et tel modèle cosmologique, mais ce qui a été réfuté, c'est peut-être une hypothèse du modèle cosmologique, pas forcément le modèle cosmologique dans sa globalité. Et la question qui est ouverte,
oui, c'est ça.
Si on modifie une hypothèse du modèle cosmologique, est-ce qu'à ce moment-là, on est capable d'éliminer le conflit entre les observations et la théorie?
C'est ça, quel type d'écho ça peut rencontrer? Et dans le même mouvement, suivant toujours Duhaime, évidemment, ça va rendre, en tout cas, ça va fortement affaiblir, voire même anéantir, l'idée est convenue dans certaines épistémologies de l'expérience cruciale, l'experimentum crucis. On se dit, bah tiens, voilà, ça doit se jouer sur telle chose. Si on a une réponse positive, on a gagné. Si on a une réponse négative, c'est perdu. Mais en tout cas, il y a une expérience fondamentale. Là encore, on est rarement devant la situation d'une expérience cruciale.
Voilà, tout à fait. Et les scientifiques en sont tout à fait conscients. Oui. Les scientifiques, en général, se rendent bien compte que ce n'est pas par une expérience, une observation, qu'on règle tout le problème. Mais après, il y a quand même des tendances à considérer, quand il y a des théories qu'on n'aime pas, quand elles rencontrent un certain nombre de conflits, de considérer que finalement, voilà, on a un conflit, c'est suffisant pour critiquer ou pour rejeter une théorie. Mais effectivement, un certain nombre de scientifiques peuvent dire non, il y a effectivement un conflit, mais si on modifie telle ou telle hypothèse de cette théorie, à ce moment-là, on élimine le conflit. Donc il y a un débat qui va toujours au-delà de la simple réfutation, prétendue réfutation. La question n'est pas de savoir, il y a effectivement des réfutations en science, mais elle est de savoir qu'est-ce qu'on a réfuté quand on dit qu'il y a une réfutation, et dans quelle mesure on ne peut pas sauver une théorie qui a été réfutée en changeant des hypothèses annexes. Pardon. Effectivement, si on change dans la théorie des hypothèses fondamentales, à ce moment-là, on change de théorie.
Oui.
Mais on peut changer des hypothèses annexes. Alors, pour donner par exemple un exemple très concret par rapport à la cosmologie, Fred Hoyle, qui a donc développé à la fin des années 1940 un modèle cosmologique qui était le grand modèle concurrent du modèle de Big Bang, avait pris comme hypothèse au début que la création de matière, parce qu'il parlait donc de la grande différence entre le modèle du Big Bang et le modèle de Fred Hoyle, c'est que dans le modèle du Big Bang, en gros, l'univers naît d'un... Une fois, il naît, il y a une origine de l'univers, donc là on ne sait pas trop d'où la matière naît, alors peut-être d'une singularité, peut-être de quelque chose, donc c'est quelque chose que les physiciens ne peuvent pas aborder. Mais Fred Hoyle va dire non, il ne croyait pas à cette idée d'une naissance, d'une apparition de l'univers il y a quelques milliards d'années. Il dit que la création de matière doit être continue à travers l'espace.
Faible création de matière.
Et il va faire l'hypothèse, ouais. Il va faire l'hypothèse d'une création uniforme à travers l'espace.
C'est ça.
Et son modèle cosmologique va rencontrer un certain nombre de problèmes au niveau des observations. Et il va se dire, bon, effectivement, il va reconnaître qu'il y a un problème au niveau de son modèle. Il va dire, je vais changer d'hypothèse, qui considérait lui comme une hypothèse annexe, c'est l'uniformité de la création de matière. Et il va dire, si j'oublie cette uniformité de la création de matière, à ce moment-là, mon modèle peut rendre compte des observations. Mais, bon, l'histoire n'a... Les autres astrophysiciens n'ont pas accepté qu'il modifie son hypothèse qu'il lui considérait comme une hypothèse annexe. Et l'ensemble de la communauté a en gros considéré qu'il n'avait pas le droit de modifier une hypothèse de son modèle. Alors, voyez, comment en changeant une hypothèse, finalement, ou en changeant d'hypothèse annexe, on peut redonner vie à un modèle, alors en l'occurrence à un modèle cosmologique.
On se retrouve tout de suite après ça. Et ben voilà, malheureusement passé de 2 minutes le mi-temps de ce rendez-vous de Continent Science aujourd'hui strictement dévolu à certaines critiques ou en tout cas interrogations concernant le modèle standard de la cosmologie en compagnie de Thomas Pelletier et Jean-Marc Baudet-Bidou. Alors évidemment, nombre de chacune des, d'une certaine façon, chacune des contributions prend sous un angle critique et évaluatif un des aspects de constitutif de cette théorie standard. Vous vous êtes réservé, vous, le rayonnement fossile. D'abord, est-ce qu'il y a une raison à ça, Jean-Marc Baudet-Bidou ?
Alors, je veux dire, tout très honnêtement, par défaut. Parce que justement, La personne que nous avions souhaité s'est défaussée. Bon, les raisons qu'on expliquait au début de l'émission. Ceci dit, effectivement, je dois rappeler qu'en fait, c'est personnellement, depuis très très longtemps, je suis un spectateur très attentif de la cosmologie et j'ai eu l'occasion, notamment sur une dizaine d'années pour la revue Ciel et Espace, d'aller interviewer tous les grands témoins de la cosmologie d'il y a 30 ans. C'est avec le recul qu'ils avaient. Quand je dis les grands témoins, c'était le successeur de Hubble qui s'appelait Alan Sandage. C'était Hans Bethe qui a été le directeur de Los Alamos, la partie scientifique.
Immense physicien,
voilà,
d'ailleurs.
Et c'était effectivement Fred Hoyle, c'était Narlikar. Enfin, donc finalement, j'ai voulu, par une démarche personnelle et effectivement, dans la médiation scientifique dont vous parliez, aller questionner ces grands témoins en leur demandant qu'est-ce que vous pensez finalement à la fin de votre vie. Et tous m'ont traduit leur interrogation et non pas leur certitude. Et donc finalement, c'est pour cette raison qu'effectivement, je me suis attelé au rayonnement de fond parce que ça a été un des enjeux les plus intéressants de la guerre des cosmologies, on pourrait dire. Puisque finalement, comme le rappelait Thomas Le Pelletier tout à l'heure, il a fallu un espèce de juge de paix entre deux théories rivales et on a choisi ce rayonnement diffus comme juge de paix, dans l'idée que vous appeliez l'expérience cruciale,
oui.
Mais qui est en fait un contresens. Parce qu'en fait, effectivement, si on analyse maintenant, y compris historiquement, la découverte de ce fond diffus et l'interprétation même aujourd'hui qu'on peut en donner, c'est largement un débat encore ouvert.
Oui.
Alors, je vais rappeler en quelques mots, effectivement, quand il a été découvert, c'est d'abord c'est un fond diffus donc, qui est donc, dans l'ensemble du ciel.
On peut peut-être préciser, d'ailleurs, si vous voulez bien, parce qu'on va devoir les utiliser, et souvent il y a une espèce de confusion. L'univers postulé, ou en tout cas admis dans ce type de théorie cosmologique, est isotrope et homogène. Distinguo entre ces deux notions.
Ah ben,
Parce qu'après, on va regarder dans toutes les directions, c'est l'isotrope, grosso modo.
Et... Oui, c'est ça. Enfin, isotrope, c'est dans toutes les directions, et homogène, c'est en tout point.
C'est ça.
Donc finalement, si vous voulez, on garantit, on prend comme hypothèse. Alors ça, c'est très très intéressant. Je crois que c'est la faiblesse essentielle du modèle du Big Bang, c'est de tenir absolument à ces hypothèses-là qui semblent par tous les bouts être contredites. Puisqu'on voit que maintenant, quand nous observons le ciel, nous n'avons pas des galaxies partout dans le ciel. Elles se regroupent en filaments. Et donc, ces structures ont eu forcément une rétroaction sur la texture de l'espace-temps.
Alors, on revient à l'histoire.
On reviendra à l'histoire.
Les deux ingénieurs, mais il y avait eu des prévisions par deux théoriciens avant.
Alors, pas du tout, dans le sens où on les entend maintenant. Si vous voulez, ces prévisions, c'était 15 lignes dans une revue Nature à la fin d'un article qui traitait sur la production des éléments. C'était absolument pas ce qu'on entend aujourd'hui. De dire, eh bien, cherchons ça parce que si nous le trouvons, nous en...
D'accord.
C'est a posteriori et c'est une reconstruction. C'est ça qu'il faut vraiment souligner.
Bien
c'est
sûr.
L'histoire. Le problème de notre histoire des sciences, c'est qu'elle est souvent réécrite de toutes pièces pour raconter une belle histoire. Mais en fait, les choses se sont passées très, très différemment. Et c'est là que, effectivement, la chose la plus intéressante, c'est ça. Ce n'est pas une vraie prédiction. D'ailleurs, ni dans la température, ni même dans l'intensité de ce rayonnement. Alors, on a justifié a posteriori la température parce qu'on a trouvé qu'effectivement, elle était plus ou moins conforme à ce qu'on attendait. Mais l'intensité du rayonnement, ça n'est pas du tout une prédiction du Big Bang. Il pourrait y avoir 1000 fois plus de rayonnement diffus ou 1000 fois moins, ce serait toujours compatible avec le modèle du Big Bang. Et si vous voulez, c'est là qu'a été l'intérêt de l'étude que j'ai faite sur les autres interprétations. C'est que des gens comme Fred Hoyle et d'autres, parce qu'avant Fred Hoyle, un physicien français qui s'appelait Charles Guillaume, en 1896, si je ne me trompe pas, s'est posé la question, mais quelle pourrait être la température de l'espace?
Oui, c'est ça, de l'univers, de l'espace.
De l'espace, c'est-à-dire si je prends toute la lumière rayonnée dans les étoiles et que je considère qu'elle va chauffer l'espace, à quelle température on aboutit? C'est un physicien, il a été prix Nobel en 1920, il était responsable du bureau des poids et mesures, enfin c'est quelqu'un d'extrêmement de laboratoire.
Pour les alliages peu combustibles, j'ai appris
dans
le texte.
Exactement. Et en fait, il trouve 5 degrés au-dessus du zéro absolu.
Oui.
Donc voilà, c'est une température caractéristique d'un équilibre, en fait, du rayonnement et de la matière. Et puis un peu plus tard, ça a été repris par Eddington, qui est un grand physicien, et puis par Fred Hoyle, qui a été frappé par cette coïncidence entre, si on prend l'intensité du rayonnement émis par les étoiles, notamment lorsqu'elles forment de l'hydrogène en hélium, elles brûlent, et donc elles produisent de la lumière, et vous disséminez ça dans l'univers, et vous faites, thermaliser, comme on dit en science, c'est-à-dire vous la transformer cette énergie en chaleur, ben vous trouvez effectivement 3 degrés au-dessus de zéro.
2,78, même beaucoup.
Voilà.
Oui.
C'est très proche de la température observée actuellement.
Kelvin.
Et cette fois-ci, l'intensité lumineuse est en accord avec celle que nous observons dans le fond diffus du ciel. Et là, effectivement, Fred Hoyle faisait valoir qu'il y avait un plus dans cette démarche et qu'elle apportait une justification à l'intensité, ce que n'apporte pas le Big Bang. Alors évidemment, effectivement, c'est très intéressant. Ça reste pour moi une question ouverte. C'est-à-dire, effectivement, il y a pour au moins une coïncidence. Alors, les coïncidences ne veulent pas toujours dire raison. Hein. C'est-à-dire, peut-être, effectivement, c'est simplement une fausse piste, c'est une vraie coïncidence. Mais ça vaudrait le coup, effectivement, d'être prolongé. Et donc, moi-même, en fait, sans connaître vraiment tous ces détails que j'ai, effectivement, retrouvés pour ce chapitre, j'ai été, effectivement, extrêmement frappé, par exemple. Alors que, du point de vue de ceux qui ont été, effectivement, soutenir le modèle Big Bang, pour eux, c'est la preuve absolue. Si vous
c'est le Graal, vous dites.
C'est
hein,
le Graal. Et alors, il y a une deuxième chose qui est extrêmement intéressante, c'est qu'on nous dit, finalement, ce rayonnement, il est rayonnement de fond. C'est-à-dire, ça se traduit, justement, en termes géométriques, par le décalage vers le rouge de la lumière, avec un décalage de l'ordre 2000, peu importe les unités. Mais si vous vous posez la question, personne n'a jamais mesuré le décalage vers le rouge de ce rayonnement, parce qu'on ne peut pas le faire. C'est un rayonnement trop diffus et trop homogène. Donc nous n'avons pas la preuve, ce qui serait la première preuve à apporter, c'est est-ce qu'il est vraiment à ce décalage vers le rouge. Donc tous ces éléments-là créent un espèce d'espace de discussion sur un des points qui paraissait le plus évident comme preuve, entre guillemets, du Big Bang.
On va rentrer dans plus de détails, mais là encore, petite caractéristique, si on prend ce 3 degrés K, pardon. Vous dites d'abord, pour fixer les choses, pour que les gens comprennent un peu mieux, ça correspond à 3 microwatts par centimètre carré. Grosso modo, c'est 300 millions de fois plus faible que l'énergie du soleil, bien évidemment. Donc c'est infinitésimal. Et vous dites aussi qu'il y a peut-être on peut en faire une observation de ce fameux 3 degrés K en regardant les télévisions qui marchent mal dans l'espèce de petit brouillard qu'il y a et qui apparaît sur l'écran. Donc c'est l'interaction de ce rayonnement de très basse température avec les éléments du téléviseur. Ensuite, alors évidemment, si on regarde dans le détail, et là les chiffres sont intéressants, si on poursuit la nature, cette fois de la température dans l'espace, et vous arrivez à ces chiffres, ça développe ce que vous venez simplement d'aborder. Si on est vraiment à 3000 degrés K avec un décalage vers le rouge de 1000, donc là on est dans le cas du découplage matière rayonnement lumineux 380 000 ans après le fameux Big Bang. Si maintenant on se place avec une autre considération, c'est-à-dire 300 degrés K émis avec un décalage de 100, alors évidemment on se rapproche, les temps se raccourcissent, et si on vient un 3 degrés Kelvin émis localement, par exemple par une grosse galaxie, c'est instantané.
C'est ça. Et tout ça,
et donc
c'est,
le temps,
tout ça serait équivalent du point de vue de ce que nous observons, puisque ces diverses contributions par le décalage de la lumière s'ajoutent elles-mêmes et apparaissent. Donc on a à trier, si vous voulez. Les hypothèses que vous évoquez sont toutes valables. On peut produire tout localement à peu près à 3 degrés K, ou tout très très loin à ce moment-là à 3000 degrés, et tout ce qui est l'intermédiaire. D'ailleurs, c'est la grande difficulté d'une expérience comme le satellite Planck dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'il doit effectivement, s'il veut soi-disant atteindre ce qui est le fond de l'univers, il doit soustraire tout ce qu'il y a devant. Ce qui vous explique que quand même, les résultats sont loin d'être faciles à obtenir. Et donc,
Thomas Pelletier, vous me faisiez signe.
Oui, il y a un point important, c'est de revenir un peu sur la terminologie. Comme le rappelle Jean-Marc, toutes ces choses-là sont une question d'interprétation. Est-ce que le rayonnement, alors nous on l'appelle dans le livre à 3K, c'est pour une raison bien précise, est-ce que le rayonnement à 3K est un signe de ce processus cosmologique qui s'est passé il y a 380 000 ans après le début de l'expansion ou pas ? Alors, c'est une question, c'est une interprétation qui est tout à fait raisonnable, mais comme Jean-Marc montre dans son chapitre, il y a d'autres interprétations. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on ne peut plus se permettre d'appeler ce rayonnement à 3K, comme l'ensemble en général de la communauté scientifique le fait, un rayonnement cosmologique ou un rayonnement fossile
cosmologique.
Puisque en appelant ce rayonnement à 3K un rayonnement cosmologique, ça inclut dans sa définition même qu'il est d'origine cosmologique. Et donc, il n'est pas d'origine locale. Donc, à partir du moment où vous appelez ce rayonnement rayonnement cosmologique ou rayonnement fossile, vous ne pouvez plus penser que ce rayonnement puisse avoir une autre origine. Vous oubliez l'interprétation qui est à la base de votre conception du cosmos. Alors, je pense qu'un des points importants qu'on a voulu souligner dans ce livre, c'est qu'il y a plusieurs modèles cosmologiques, mais tous sont des interprétations. Il ne faut pas oublier que ce sont des interprétations. Et si on oublie que ce sont des interprétations, c'est là qu'on risque de se fourvoyer. Donc, notre livre, globalement, c'est un rappel de cette évidence, mais que de temps en temps, les terminologies, et c'est là que les cosmologistes ne font pas assez attention, ils vont oublier que ce qu'ils sont en train de dire, ce sont des interprétations, puisque les termes qu'ils utilisent nient le fait que ce soit des interprétations.
C'est le consensus, d'une certaine manière, des paradigmes à la Thomas Kuhn, quoi. Et il faudrait, je ne sais pas si on peut utiliser cette chose. Alors, dernier point, après tout, on peut conclure là-dessus, parce que, évidemment, chaque fois et qu'on joue le jeu de la vulgarisation, on tombe quand même sur une chose curieuse, c'est qu'on se sent, évidemment, en tant que vulgarisateur, contraint ou obligé, puisqu'il faut qu'on montre qu'on a bien lu les documents, qu'on puisse répondre en particulier et notifier qu'il existe, une matière noire, puis une énergie noire. Alors, question pendante, c'est-à-dire qu'au départ, il faut imaginer un univers homogène pendant toutes ses parties, et puis, il faut quand même des grumeaux à un moment, il faut expliquer qu'il y a des inhomogénéités locales qui vont évidemment donner lieu à des amas de galaxies, à des singularités dans les grands espaces vides, et donc il faut bien les expliquer. Alors, très tôt, une fois qu'on a adopté cette hypothèse à partir du Big Bang, s'impose l'idée pour trouver une manière d'expliquer d'expliquer le fonctionnement actuel de l'univers, ça manque de la matière à ce moment-là. Il en manque. Alors on met une matière inobservable, c'est la matière noire. L'a-t-on vu, l'a-t-on trouvé depuis 30 ans ?
Non, pas du tout. Et d'ailleurs, on va se trouver bientôt parce que un des derniers espoirs était aussi le grand accélérateur, le LHC,
oui,
qui devait éventuellement avoir une trace, même infime, de cette matière noire. On ne la trouve pas par ses moyens directs, on ne la trouve pas dans les moyens directs avec les détecteurs qu'on a au fond des montagnes. Et au fond, justement, c'est développé dans le livre par Thomas Beuchert, effectivement, qui repose une question très simple. Il dit, si je m'amuse à abandonner les hypothèses dont nous parlions tout à l'heure d'homogénéité et d'isotropie dans les équations de la relativité d'Einstein et que j'essaye de les résoudre. Au passage, je vous ferai souligner que nous sommes pratiquement condamnés à les garder parce que nous n'avons pas de solution générale de la relativité. Donc, ce n'est pas par, effectivement, vraiment manque de critique des scientifiques, mais ils ont déjà des outils très limités. C'est-à-dire, alors, Thomas Beuchert fait l'exercice dans un certain nombre de variantes et qu'est-ce qu'il découvre ? Et il n'était pas le seul. Avant, il y a une physicienne française, d'ailleurs, qui a été très, très décrite pendant longtemps, qui s'appelle Marie-Noëlle Célérier, qui avait évoqué cette histoire-là, et maintenant d'autres scientifiques le font. Qu'est-ce qu'il découvre ? C'est qu'il n'a pas besoin à ce moment-là de matière noire et d'énergie noire, dans certains cas. Parce que finalement, on ne parle plus d'une expansion homogène, on ne parle plus d'une seule constante de Hubble, puisqu'il y a différentes directions. Donc il peut y avoir des bulles d'expansion rapide, noyées dans des bulles d'expansion plus lente, et qu'à ce moment-là, l'invention de ces concepts nouveaux n'ont plus lieu d'être. On peut très bien expliquer ce qu'on observe localement par rapport à d'autres régions qui... Alors c'est très instructif, parce que ça, c'est dans l'économie de moyens, si vous voulez. Il relâche juste une petite hypothèse, un peu trop simpliste, on pourrait le dire, parce que qu'est-ce qui nous prouve que l'univers est homogène et isotrope ? Rien. Pas grand-chose. Juste ce fameux rayonnement de fond, justement, c'est un peu tourné dans le rond. Et donc, il le fait et il démontre très, très bien. Et là, maintenant, les travaux ne sont plus discutés. Simplement, il faut les rendre compatibles avec toutes les observables. Donc, ce n'est pas encore quelque chose de totalement accepté. Mais moi, je pense que la solution est là. Alors, vous voyez qu'effectivement, on a le choix, effectivement. Soit on essaye d'introduire des concepts nouveaux, matière noire, énergie noire, sans avoir aucune justification tellement vraiment... Ou bien, on remet en cause l'hypothèse et ça paraît marcher mieux. Donc, je dis pourquoi pas, finalement.
Pour conclure juste cette question, parce qu'à la suite de toutes ces questions, justement, voilà que, là, vous avez fait tout à l'heure allusion en citant Planck, voilà donc ce satellite qui s'appelle WMAP, qui a été actif de 2001 à 2008, a-t-il apporté d'autres réponses ? Et puis quel appareil, mais là encore, bien centré sur toutes ces questions, peut-être un certain nombre de questions standards du modèle standard vont être posées. Qu'est-ce qu'il faut conclure ? Qu'est-ce qu'il faut attendre ?
Non, je pense que là, effectivement, il va paraître sans doute en février 2013 les résultats cosmologiques de Planck. Mmh. Évidemment, Planck était... Il y a une série de satellites. Vous savez, les premiers satellites, c'était des espèces de loupes très déformantes. Et maintenant, on a une résolution spatiale et on voit des détails de ce fond diffus. Donc, on va pouvoir analyser ces inhomogénéités dont on parlait. Donc, Planck, normalement, ce qui est attendu des scientifiques qui sont effectivement dans la lignée du modèle standard, c'est qu'ils nous donnent une distribution de ces inhomogénéités qui serait plus ou moins compatible avec ce que prévoit le début de l'expansion après l'inflation. Ouais. Voilà, donc si vous voulez, à mon avis, ce n'est pas l'expérience cruciale, ça ne sera pas l'expérience cruciale. Simplement, peut-être que, et c'est toujours l'enjeu de ces expériences, qu'elles soient le LHC ou Planck, c'est le défaut, quoi. Le diable est dans les détails et peut-être que Planck va nous trahir un détail qui va nous mettre sur une autre piste. Enfin, je pense qu'honnêtement, c'est peut-être le souhait de tous les scientifiques à l'heure actuelle. Si on ne trouve pas aucun de ces détails, si vous voulez, qui nous remettent sur notre piste, on n'avancera pas. Donc c'est...
Un dernier petit mot de conclusion,
je dirais,
très bref.
Quand bien même ces expériences seraient concluantes, la question du livre reste d'actualité. Devant toute théorie qui marche ou devant tout modèle cosmologique qui marche, on est en droit de se demander s'il n'y aurait pas un autre modèle cosmologique différent qui serait également à même de marcher. Et donc, il faut, je pense, quand on aborde la science et la physique là en particulier, il faut toujours avoir cette question à l'esprit. Ce n'est pas parce qu'un modèle marche qu'il correspond forcément à la réalité. Il faut être capable de montrer que les autres ne marchent pas. Et la question, donc il y a toujours une question qui est ouverte. Et je pense qu'il faut, garder cet esprit d'ouverture quand on fait de la cosmologie ou d'autres sciences.
Bien, ben nous sommes au terme. Est-ce qu'on peut concevoir, en tout cas, qu'on vous mobilise face à des, allez, on ne va pas dire des orthodoxes, mais en tout cas des partisans avérés appuyés sur la théorie standard pour une conversation, en tout cas, d'entre-échange. On n'est pas obligé d'être polémiste férocement quand on échange des arguments critiques, bien évidemment.
Alors, c'est exactement notre point de vue. On ne veut pas placer le pour et le contre. Hein. C'est-à-dire, il s'agit pour nous d'ouvrir les horizons et de discuter. D'ailleurs, certaines de ces hypothèses-là sont quand même discutées dans le monde scientifique et de la porter à connaissance du grand public pour qu'on évite de donner des certitudes en nous donnant l'âge de l'univers à 10 millions d'années près. Je pense que ça, alors là, je vous dis, dans 5 ans, 10 ans, on aura un autre chiffre, donc ce n'est pas la peine de faire ce genre d'exercice. Vous voyez, je veux dire, c'est vraiment. Moi aussi, je suis un peu dans la médiation scientifique et je suis désolé de devoir corriger sans cesse. Non, mais ils ont dit ça, mais ce n'était pas vraiment.
13 milliards, virgule. Bon, très bien. En tout cas, donc, c'était au tour de cet ouvrage intitulé tout simplement Un autre cosmos avec un gros point d'interrogation et qui est donc a été établi sous la direction et aussi avec les contributions, bien sûr, de Thomas Lepelletier et de Jean-Marc Bonnet-Bidot. Et il est publié aux éditions Vuibert, comme d'ailleurs précédemment un ouvrage important, je ne sais pas si vous l'avez vu, aux mêmes éditions, et qui est consacré, là encore c'est un ouvrage collectif, et c'est un ouvrage extrêmement précieux, je le redis parce que il est effectivement très précieux, comme textbook sur la philosophie des sciences et TOC. Ouverture de l'espace critique et bonjour Raphaël Briot.
Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde.
Alors est-ce que vous avez été tester de nouvelles machines savantes ?
Ah non, aujourd'hui je me suis contentée de m'allonger et d'ouvrir un ouvrage qui était fort agréable. Et d'ailleurs ça va être un petit peu la fête de Vuibert aujourd'hui puisque c'est un ouvrage qui vient de la même maison d'édition et qui s'intitule Feynman. Il s'agit très exactement d'une bande dessinée traduite de l'anglais avec un scénario de Jim Ottaviani et des dessins de Leland Myrick. Et une citation sur la couverture que je vous donne tout de suite. « Si c'est lui l'homme le plus intelligent du monde, on est dans de beaux draps ». Alors voilà, c'est ce qu'aurait déclaré la propre mère de Richard Feynman, puisqu'il s'agit bien de lui, vous l'avez compris, en découvrant les honneurs faits à son fils dans la presse américaine. Alors, vous connaissez, Stéphane, mon goût pour les bulles. Elles sont particulièrement rares dès qu'on aborde le thème des sciences. Alors, je suis une lectrice qui est relativement indulgente d'habitude et qui aime saluer les quelques tentatives de vulgarisation qui atteignent les rayons des libraires. Et Dieu sait comme elles se comptent sur les doigts d'une main. Et ce, même si parfois elles sont un tout petit peu poussives, si elles manquent de souffle ou encore même de science, eh bien là, rien de tel. Je tiens à le souligner d'emblée, cet ouvrage est une grande, grande réussite. Le dessin est élégant, maîtrisé et surtout, le scénario est équilibré, intelligent et drôle. Très, très drôle.
Ah oui.
Donc, c'est un vrai bonheur de lecture et j'insiste vraiment, allez chercher ce livre et lisez-le. C'est très, très, très agréable.
Je peux faire une petite citation ?
Ah, bien sûr.
Dans une des bulles, justement, question donc Einstein lui-même, Albert de son prénom, veut se rendre au séminaire de Richard de son prénom, Feynman, et lui dit : est-ce que vous servez du thé au séminaire ? Vous vous souvenez ? Et Feynman dit oui, et après la bulle suivante, Feynman dit « Ouf, j'ai pu répondre oui à la première question d'Albert
». Donc vous avez lu cet ouvrage, Stéphane. Oui. Et donc, vous l'aurez compris, c'est un roman graphique qui fait le portrait des physiciens les plus influents de la seconde moitié du XXe siècle, et un personnage hautement iconoclaste. Alors, vous en parlerez sûrement mieux que moi, mais rappelons-le brièvement pour ceux qui ne connaîtraient pas Richard Feynman. Il fut professeur à 24 ans, prix Nobel à 47. Il a participé à l'élaboration de la bombe atomique, a proposé une théorie. Alors, j'aurais du mal à le résumer, mais l'électrodynamique quantique relativiste, ayant pour but de réconcilier l'électromagnétisme avec la mécanique quantique. Dites-moi si je me trompe.
Ça, bien sûr.
Il fut un vulgarisateur hors pair, et ça se ressent énormément dans cet ouvrage, qui a encouragé les questions idiotes, et dont le cours de physique donné à Caltech en Californie demeure d'ailleurs une référence à l'heure actuelle, qui incitait les gens à douter, comme l'a dit votre invité tout à l'heure. Mais Richard Feynman était également un grand joueur de bango,
oui,
un séducteur, un voyageur, et il adorait déchiffrer les codes secrets de manière compulsive. Voilà, j'arrête là la liste, on pourrait en rajouter des tonnes.
Alors... et ouvrir en douce les bureaux soi-disant classés secrets de Los Alamos. C'était son sport préféré à l'époque. Il se marrait en ouvrant les bureaux.
Bon, tout à fait.
Comme quoi, grand joueur, le Richard Feynman.
Alors que l'on se rassure, il n'est pas nécessaire de connaître Feynman pour apprécier cet ouvrage. Le néophyte découvrira avant tout un homme amoureux des sciences et pour qui chercher, douter est un plaisir et qui refuse systématiquement tous les honneurs, tous les avantages qui se présentent à lui et qui pourraient l'éloigner justement de cet amour des sciences. Alors, des petites anecdotes dans cet ouvrage, des amis par exemple l'enferment dans une pièce pour le forcer à écrire noir sur blanc ses résultats et publier enfin un article scientifique avant que ses idées ne soient reprises par d'autres. Un autre moment au Brésil, après des semaines insouciantes, à traîner un peu dans les bars. Tout d'un coup, une envie de boire devient très très forte et il se met à renoncer définitivement à l'alcool de peur d'être subjugué par cette envie. Sa phrase à ce moment-là, « Je prends tant de plaisir à réfléchir que je ne peux pas saboter la machine qui donne à la vie toute sa saveur. » J'adore cette citation. Un peu plus tard, lorsqu'on propose de le débaucher avec un salaire, dit-il, ahurissant, il répond tout de suite par courrier « Je dois refuser votre offre. Si j'avais un tel salaire, je prendrais une maîtresse, je lui louerais un appartement et je lui achèterais des cadeaux. Et voilà ce qu'il arriverait. Elle me causerait des inquiétudes et des disputes à la maison. Je serais malheureux, incapable de faire de la physique. Ça serait la débâcle. Donc, puisque ce dont j'ai toujours eu envie serait mauvais pour moi, je ne puis accepter. » Voilà comment refuser une augmentation. Et lorsqu'on appelle enfin en pleine nuit chez lui pour lui annoncer finalement qu'il a gagné le prix Nobel, il répond « Ouais, mais là je dors, ça serait mieux si vous me rappeliez demain matin. » Alors, je ne sais pas si toutes ces histoires sont exactes, mais j'ose espérer que le scénario est écrit en fonction de la réalité. En parallèle, alors, il n'y a pas que des anecdotes dans cet ouvrage, bien sûr. On découvre également, pas tellement les résultats des découvertes de Richard Feynman, mais plutôt, on nous permet de suivre sa démarche intellectuelle. Et c'est beaucoup plus judicieux, il me semble, de la part de ses auteurs, de nous amener à comprendre comment Richard Feynman est arrivé à certains résultats et quels sont ses points de départ finalement pour ces différentes découvertes. En parallèle, puisqu'on décrit un homme de génie, petite anecdote, lorsqu'il rencontre une jeune fille au pair anglaise et lui propose de venir tenir sa maison, il lui explique sobrement « Tout ce que je sais cuisiner, c'est des steaks, des côtes d'agneau et des côtes de porc avec des petits pois, du maïs ou des fèves. » On ne peut faire que 9 repas différents avec ça avant de tourner en rond la barbe. Et c'est comme ça qu'il arrive à la convaincre de venir s'occuper de sa demeure. Voilà, je vous incite vraiment à découvrir cet ouvrage, Feynman chez Vibert, une bande dessinée fabuleuse.
Petit point de désaccord, le seul d'ailleurs que je pourrais avoir avec ce monsieur, bien sûr, extrêmement talentueux et intelligent, il détestait, en disant qu'il était inutile, Baruch Spinoza. Donc voilà, petit point de détail agaçant pour... ce génie de la philosophie concernant le génie de la physique, et nous arrivons au terme de ce rendez-vous de Continent Science. Voilà. Merci de votre attention et de votre fidélité. Vos remarques et vos critiques sont bien sûr et toujours les bienvenues, surtout dans cette circonstance, avec notre thème d'aujourd'hui. Inès de Brunalis, Raymond, Jacques Hézubert, Dany Journaud, Stéphane Delis-Georges. Continent Science, bien sûr, vous le savez, balado diffusé. Si vous voulez réécouter cette émission n'importe où, n'importe quand, il vous suffit de vous reporter donc au site internet franceculture.fr, à l'émission Continent Science, et là, pour 500 jours, vous pouvez réécouter cette émission, et pour une semaine, vous pouvez donc la télécharger. Demain, à la même heure, vous retrouverez Olivier Lioncan avec son émission Avec ou sans rendez-vous. Pour nous, ça sera même lieu, même heure. La semaine prochaine, il me reste sans hésiter à vous souhaiter un très bel après-midi sur France Culture.